Bonsoir à tous, Morgan Guiriec et Eric Manirakis en votre compagnie. Bienvenue à l'édition de ce jeudi 20 août 2015. À la une ce soir.
Le Burundi, Pierre Nkurunziza a prêté serment pour un troisième mandat controversé. L'opposition burundaise s'en moque.
Pour nous, c'est un non-lieu. Je pense que nous devons marcher vers la voie des négociations afin de préparer son départ.
Au Sénégal, la Cour suprême confirme la condamnation de Karim Wade, fils de l'ancien président, à 6 ans de prison pour enrichissement illicite.
Et nous partirons en RDC à la rencontre de familles refoulées du Congo-Brazzaville vivant dans des conditions précaires.
Si vous voyez même les enfants qui sont en train de mendier dans les véhicules, ils vivent ici avec la mendicité. Sans mendicité, les gens ne peuvent pas vivre ici.
Et en Thaïlande, on est toujours à la recherche de l'auteur de l'attentat de Bangkok.
Ne manquez pas, chers auditeurs, nos segments sur l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal.
Surprise au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a prêté serment aujourd'hui pour un troisième mandat controversé. Pourtant, la Constitution prévoit la prestation de serment au 26 août devant les deux chambres réunies au palais de Kigobe dans la capitale Bujumbura. Pierre Nkurunziza a donc promis de respecter la Constitution et les accords de paix d'Arusha. Il entend ainsi asseoir une paix durable pour tous les Burundais, sans exclusive aucune, dit-il. En revanche, il a mis en garde ceux qui ne reconnaissent pas les nouvelles autorités issues des dernières élections. Écoutons un extrait du discours de Pierre Nkurunziza.
Devant le peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté nationale, moi, Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, je jure fidélité à la Charte de l'unité nationale, à la Constitution de la République du Burundi et à la loi et m'engage à consacrer toutes mes forces à la défense des intérêts supérieurs de la nation, à assurer l'unité nationale et la cohésion du peuple burundais, la paix et la justice sociale. Je m'engage à combattre toute idéologie et pratique de génocide et d'exclusion, à promouvoir et à défendre les droits et libertés individuelles et collectives de la personne humaine et du citoyen, et à sauvegarder l'intégrité et l'indépendance de la République du Burundi.
Pierre Nkurunziza, lors de son investiture à Bujumbura, de vice-présidente était nommé dans la foulée. Gaston Sindimon et Joseph Boutore. Les États-Unis appellent au dialogue politique urgent au Burundi. Selon le département d'État, le chemin choisi par le parti au pouvoir à Bujumbura ne résoudra pas la crise politique et sécuritaire. La situation est de plus en plus volatile et la capacité du président Nkurunziza à gouverner efficacement reste en péril. La fermeture de l'espace démocratique, une économie en déclin et l'augmentation de la violence fragilisent profondément le pays, précise Washington.
Au Mali, un comité de crise a été créé pour amener la paix dans le nord du pays. Le comité de crise politique et militaire est composé de responsables de la mission de l'ONU au Mali et d'officiels maliens, indiquent les autorités.
La Cour suprême du Sénégal a confirmé aujourd'hui par arrêt la condamnation à mars de Karim Wade à 6 ans de prison pour enrichissement illicite. Les pourvois de l'ancien ministre sénégalais en cassation ont été rejetés. Nicolas Pinon.
Oui, c'est la fin du volet judiciaire de l'affaire Karim Wade. L'arrêt du 23 mars prononcé par la Cour de répression de l'enrichissement illicite est donc définitivement validé après la lecture de son arrêt à Dakar du président Abdourahmane Diouf. Karim Wade, fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, a été condamné en mars dernier à 6 ans de prison et à plus de 210 millions d'euros d'amende. L'arrêt de ce jeudi a été rendu en l'absence de Karim Wade, toujours en prison, et de ses avocats qui avaient boycotté l'audience ouverte le 6 août pour l'examen de leur pourvoi en annulation. Quelques dizaines de partisans de M. Wade s'étaient rendus ce jeudi devant la Cour suprême. Ils se sont ensuite dispersés sans incident. Des éléments de la police anti-émeute étaient déployés tout autour du siège de la Cour suprême en bordure de mer, près du centre-ville de Dakar. L'ancien président Abdoulaye Wade a toujours dénoncé un procès politique visant à écarter son fils de la présidentielle qui doit se tenir en 2017 ou en 2019.
Le président bissau-guinéen José Mario Vaz a nommé par décret aujourd'hui l'ex-ministre Bassirou Dia au poste de Premier ministre, qui était vacant depuis le limogeage le 12 août de Domingos Simoes Pereira en raison d'un bras de fer au sommet de l'État. Un choix contesté, les explications de Tatiana Mosso.
Bassirou Dia est nommé Premier ministre et la décision entre immédiatement en vigueur. Cette nomination contre l'avis du parti au pouvoir ne risque pas d'apaiser les tensions en Guinée-Bissau. Après une semaine d'impasse politique, le décret communiqué par la présidence indique une décision prise après des concertations avec les partis politiques siégeant à l'Assemblée nationale. Depuis plusieurs jours, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, majoritaire à l'Assemblée nationale populaire et dirigé par l'ancien Premier ministre, réclamait la reconduction de ce dernier à la tête du gouvernement. Le PAGC, dont est également issu le président Vaz, a donc contesté avec véhémence cette nomination. Cette décision est illégale et inconstitutionnelle selon le porte-parole du parti. Le président a choisi la force contre la voix du peuple, poursuit-il. Bassirou Dia, ancien ministre de Domingos Simoes Pereira, est le troisième vice-président du PAIGC. Mais il a été sanctionné par le parti il y a quelques semaines pour avoir détourné des fonds du PAIGC, assurent les membres du parti.
Et la République démocratique du Congo va juger ces trois soldats accusés de viol en Centrafrique, où ils sont déployés dans le cadre d'une mission de paix de l'ONU, a déclaré à l'AFP Alexis Tambwe Mwamba, le ministre congolais de la Justice. Il a ajouté que la RDC ne pouvait pas tolérer de tels actes et que les militaires concernés seraient rapatriés et jugés devant une cour militaire.
Deux Tchadiens ont été exécutés en Arabie Saoudite pour leur rôle dans un attentat remontant à une dizaine d'années. C'est ce qu'a fait savoir le ministère saoudien de l'Intérieur. Ils avaient été reconnus coupables d'appartenir au réseau terroriste Al-Qaïda de l'assassinat du Français Laurent Bardot en 2014 à Djeddah et de tentatives de meurtre visant des responsables étrangers.
Et un journaliste sud-soudanais a été abattu par des inconnus mercredi soir à Djouba, c'était hier, au Soudan du Sud. Le président sud-soudanais Salva Kiir avait publiquement menacé de tuer les journalistes travaillant contre le pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le Premier ministre grec Alexis Tsipras a annoncé sa démission et a appelé à des élections anticipées dans le pays en crise. Dans un discours télévisé à la Nation, Tsipras a déclaré qu'il va bientôt rencontrer le président de la République pour lui présenter sa démission et celle de son gouvernement.
Attentat dans le sud du Yémen, une explosion s'est produite contre le siège provisoire du gouverneur à Aden. Ville reprise aux rebelles chiites et houthis. D'après les sources de sécurité, 4 personnes ont été tuées et 10 autres blessées.
Les soldats du califat islamique, un groupe lié à l'État islamique, a revendiqué la responsabilité d'un attentat, qui a fait plusieurs dizaines de blessés ce matin au Caire. Une trentaine de personnes, dont 6 policiers, ont été blessés par l'explosion d'une voiture piégée visant un bâtiment de la police.
Et au Proche-Orient, l'armée israélienne indique que 2 roquettes ont explosé entre la Galilée et le plateau du Golan, occupé par Israël. Selon des sources sécuritaires, les projectiles, probablement venus du Liban ou de Syrie, ont provoqué des incendies sans faire de blessés.
Immigration en Europe, la France et la Grande-Bretagne affichent leur détermination à lutter contre les réseaux de passeurs qui aident les migrants et réfugiés à traverser la Manche. Plus de détails avec Bagessikoura.
C'est à Calais, dans le nord de la France, que les ministres français et britanniques de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve et Theresa May, se sont retrouvés pour signer un accord renforçant leur coopération. C'est dans ce port français que convergent des milliers de réfugiés de toutes nationalités, espérant achever leur périple européen en Angleterre. L'accord franco-britannique prévoit notamment la création d'un centre de commandement et de contrôle commun de la lutte contre les passeurs. Bernard Cazeneuve a visité avec son homologue britannique le site d'Eurotunnel, objet toutes les nuits des tentatives d'intrusion de migrants et réfugiés tentant le tout pour le tout. Il faut qu'un signal très fort soit envoyé ici à Calais qu'on ne peut pas passer la frontière que nous gérons en commun, a déclaré Bernard Cazeneuve. Le haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés a salué l'annonce de ce plan d'action franco-britannique visant à renforcer la coopération des deux pays face à l'afflux de migrants et réfugiés qui souhaitent traverser la Manche.
Et les autorités thaïlandaises, toujours à la trousse de l'auteur de l'attentat de Bangkok. La police dit avoir interrogé puis libéré un Thaïlandais qui s'était rendu aux autorités après avoir été vu sur des images de vidéosurveillance à proximité du sanctuaire hindou où s'est produit l'explosion. Le principal suspect, lui, présenté comme un étranger, demeure introuvable. Bangkok ne sait pas s'il est toujours en Thaïlande. Il aurait au moins 10 complices et les autorités sollicitent l'aide d'Interpol pour le retrouver. Les enquêteurs doutent qu'un groupe terroriste international soit derrière de l'attaque qui a fait au moins 20 morts lundi dans un sanctuaire hindou.
Lutte contre le terrorisme en Australie. Les autorités indiquent que 7 jeunes qui comptaient vraisemblablement se rendre au Moyen-Orient pour combattre aux côtés du groupe djihadiste ont été arrêtés dans un aéroport. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui et sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco, ce soir avec Anastasie et Toudieshi.
Au Congo-Brazzaville, la Sanga se désenclave. Le département de la Sanga, situé dans le nord du pays, sort de son isolement. Selon nos confrères de Jeune Afrique, à partir de fin 2016, il sera possible de rallier Brazzaville par route, mais aussi les frontières centrafricaines et camerounaises. Par ailleurs, pendant que l'aéroport de Wesso se met aux normes internationales, le port de la ville se dote d'un nouveau linéaire de quai de 120 mètres. Et côté téléphonie, la fibre optique est en cours d'installation. Objectif, faire de la ville une plateforme numérique entre le Congo, le Cameroun, le Gabon, la Centrafrique et le Tchad. Le Sénégal produira du pétrole. Le groupe britannique Cairn Energy affirme dans un communiqué avoir obtenu le feu vert des autorités sénégalaises. Le Sénégal produira du pétrole. Le groupe britannique Cairn Energy affirme dans un communiqué avoir obtenu le feu vert des autorités sénégalaises pour son programme d'exploration et de développement d'hydrocarbures. Cairn, qui a découvert du pétrole au large des côtes sénégalaises fin 2014, opère dans le pays à travers sa filiale Capricorn Sénégal Limited. La société prévoit de creuser jusqu'à 6 nouveaux puits et annonce un investissement de 170 millions de dollars entre mi-2015 et mi-2016. Satisfaisite pour le système Citracote. Pendant la décennie de crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, une fuite constante du coton a été observée vers le Burkina Faso et le Mali. Grâce au système d'identification des producteurs et de la traçabilité de la production de coton, acronyme Citracote, la fuite a été résorbée, selon l'APA. La filière cotonnière ivoirienne n'a enregistré aucun cas de vol de production lors de la campagne 2014-2015 grâce à ce système. Le Citracote comporte plusieurs avantages, notamment celui d'ouvrir les acteurs du coton à la microfinance.
Voilà pour la Minute Éco avec Anastasie Toudieshi.
Une petite détente avec l'espoir en compagnie de Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Basketball d'abord, deux journées en Tunisie de l'Afrobasket 2015.
Oui, la Côte d'Ivoire est tombée face au Cap-Vert 76 à 56 dans le groupe D. Aujourd'hui également, on aura Angola, Mozambique, Algérie, Zimbabwe, le choc Sénégal, Maroc. Hier, l'Égypte a écrasé dans le groupe C le Gabon 96 à 49 en match d'ouverture de cette édition. La Tunisie a battu l'Ouganda dans le groupe A par 77 à 55. Dans le même groupe, les Fauves du Bazoubangui se sont inclinés 68 à 83 face aux Super Eagles du Nigeria. Il faut toutefois considérer que la RCA a joué sans son meneur de jeu, Romain Sato, qui joue dans les championnats espagnols. Le Mali a perdu face au Cameroun dans le groupe C, 56 à 70.
Et Bagassi en football, suite à fin de la phase des groupes ce soir de la Ligue des champions en Europe.
Oui, c'était hier soir plus tôt. En Espagne, sur son propre terrain, Valence a battu Monaco 3 buts à 1. Les Albanais de Skanderbeu ont perdu 2 buts à 1 face au Dynamo Zagreb. Victoire de Celtic Glasgow 3-2 contre Malmö. 2 buts partout entre les Suisses du FC Bâle et le Maccabi Tel Aviv. Le Rapide de Vienne est lui tombé 1-0 face au Shakhtar Donetsk.
Et toujours dans cette discipline, l'on connaît déjà la liste des 24 étalons pour affronter le Botswana.
Et sans surprise, Gen Oror, le sélectionneur du Burkina Faso, a rappelé tous les habitués pour affronter le Botswana. Ce sera le 5 septembre à Gaborone. Rappelons que plusieurs joueurs ont des difficultés dans leur club, tels que le milieu de terrain Alain Traoré, qui est à Lorient en France, et l'attaquant Aristide Bansé, toujours à la recherche d'un point de chute.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Eric Manirakiza en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Eric, le Burundi.
Oui, Morgane, le Burundi, un non-lieu, un mépris vis-à-vis du peuple burundais. C'est la réaction de l'opposition à la prestation surprise de serment du président Pierre Nkurunziza avant la date prévue par la Constitution le 26 août. Le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et de l'état de droit, CNARED, invite plutôt le président Pierre Nkurunziza à la table de négociation pour lui préparer une sortie en vue d'organiser des élections non controversées. Et sur ce, VOA Afrique a joint en Italie le chef de l'opposition, Léonard Nyangoma.
Cet événement d'aujourd'hui est pratiquement un non-lieu pour ceux qui connaissent Nkurunziza. Pour moi, il n'a pas prêté serment parce que d'abord, il n'en a pas le droit. Il n'a pas la légitimité pour le faire. Il n'y a personne qui l'a élu. Et deuxièmement, il ne peut pas légalement briguer un autre mandat. Et même s'il devait se succéder lui-même, il ne pouvait prêter serment que le 26 août 2015. Alors, pour nous, c'est un non-lieu. C'est un mépris encore une fois. C'est une récidive, une violation des textes fondamentaux sur lesquels repose vraiment l'unité, la démocratie du peuple burundais.
Quelle sera votre attitude ?
Pacifique. Nous sommes des pacifiques. Il n'est jamais tard pour bien faire. Je pense que devons marcher vers la voie des négociations, du dialogue, et pour dialoguer même avec ces hommes ou même avec lui, afin de préparer son départ, afin de lui préparer une voie de sortie. S'il ne sait pas comment s'attirer d'affaires, on va lui montrer comment sortir. Sinon, le 26, ça sera trop tard.
Monsieur Nyangoma, le président Nkurunziza a mis en garde ceux qui ne reconnaissent pas les institutions issues des dernières élections. Et vous dites que vous voulez lui préparer une sortie honorable.
À qui il envoie ces injonctions ? Peut-être à lui-même. Il doit se punir ou s'autopunir sur le faux. Et personne, et je demande qu'en particulier les partenaires du Burundi qui n'ont pas reconnu les résultats des dernières mascarades électorales, de ne pas vraiment reconnaître les institutions fantoches qu'Nkurunziza est en train de mettre en place à la hâte. Le peuple burundais s'est déjà prononcé et beaucoup d'États sont déjà prononcés, en particulier les pays d'Afrique, l'Union africaine. Nous savons que le président américain s'est prononcé, d'autres États de l'Union européenne, et ainsi de suite, sont déjà prononcés contre cette violation flagrante de la Constitution et des accords d'Arusha. Alors, s'il persévère dans l'erreur, le peuple a le dernier mot. Le peuple a toutes ses composantes et toutes ses institutions va certainement le chasser du pouvoir. C'est ça, là. Une dictature, qu'est-ce qu'on fait ? Une dictature aura combat. Et certainement que le peuple, ce ne sera pas la première fois que le peuple burundais combat une dictature et qu'il en sort toujours victorieux.
Léonard Nyangoma, joint en Italie.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi. À Kinshasa, en République démocratique du Congo, 221 familles refoulées du Congo-Brazzaville vivent dans des conditions précaires. Une année après leur refoulement, elles passent toujours la nuit à la Belle Étoile. Ces familles en détresse exhortent les autorités d'honorer leur engagement en assistance pour la réintégration. Cyril Milandou, de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, a rencontré ces familles.
221 familles dépourvues de tout. Le gouvernement ne leur avait alloué que 18 000 francs congolais, soit plus ou moins 20 dollars américains pour leur relocalisation. Somme jugée insuffisante par François Okitalodi, président des expulsés de Brazzaville.
Avec ces montants-là, nous ne pouvions pas chercher une maison convenable. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez ici. Nous sommes rentrés juste au site d'accueil pour que les autorités, tout en nous remettant les 18 000 francs congolais, pour que nous puissions puissions louer des maisons. Nous sommes expulsés de Brazzaville dans des conditions de brutalité. On a tout perdu, alors on est démunis, ne sachant pas où aller trouver une maison à louer avec les 18 000 francs. Et nous sommes obligés d'y rester jusqu'à présent. On passe la nuit ici à la Belle Étoile. On est dépourvu de moyens.
Ces familles passent presque la nuit à la Belle Étoile. Elles vivent de la mendicité en l'absence de l'aide de l'État et des humanitaires.
On a reçu une fois à l'occasion de la Journée mondiale du paludisme. Le ministre de la Santé est passé personnellement me remettre 400 moustiquaires. Alors vous voyez, même avec 20 bâches, il m'avait remis les lots de 10 bâches. Il était venu me remettre là à son compte privé avec sa famille. Mais le gouvernement nous a remis seulement 400 moustiquaires à l'occasion de la Journée mondiale du paludisme. Si vous voyez même les enfants qui sont en train de mendier dans les véhicules, ils vivent ici avec la mendicité. Sans mendicité, les gens ne peuvent pas vivre ici.
Il est peu probable que le 231 enfants retrouve les chemins de l'école au début du mois de septembre prochain. François Okitalodi.
Je voudrais demander un peu à l'UNICEF s'il ne peut pas faire quelque chose pour leur remettre même les kits et les fournitures scolaires. Parce que j'avais déjà reçu les comités des parents de la commune de Kinshasa. Mais on attend toujours qu'ils puissent y revenir parce qu'ils m'avaient seulement demandé que je puisse faire les listes et attendre leur retour.
Aucune autorité impliquée dans le dossier des familles refoulées de Brazzaville n'a souhaité se prononcer pour l'instant. Ces familles vivent dans un dénuement total. Avoir une maison en location, il faut en moyenne 1000 dollars américains de garantie. En recevant 20 dollars du gouvernement, il est impossible, voire inimaginable, que ces familles trouvent un logement. Kinshasa, Cyril Milandou de Top Congo FM pour la VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur Radio Télé Mwangaza, à Lubumbashi, province du Katanga.
Au Mali, combat à Anéfis, zone de sécurité onusienne de 20 km autour de Kidal. La situation inquiète dans le nord du pays, 2 ans après le début de l'intervention française Serval dans le pays, puis le déploiement de la MINUSMA. La tension reste vive entre les différents groupes rebelles qui se battent régulièrement. Les accords de paix d'Alger sont-ils réellement menacés? Nicolas Pinault a joint le chercheur Roland Marchal, du Centre d'études et de recherches internationales.
Ça m'inquiète, mais quand même pas totalement au bord du précipice, mais c'est effectivement des événements qui sont relativement négatifs. C'est totalement souligné dans l'ambiguïté du communiqué du gouvernement malien à propos de cette zone de sécurité. Si vous voulez, ce qui est frappant dans le communiqué du gouvernement malien, c'est que il ne dit rien sur ce qui s'est passé à Anéfis, et on peut le regretter. Est-ce que, d'une certaine façon, les milices Imrad qui ont mené les combats agissent en fait pour le gouvernement, ou est-ce que le gouvernement n'a rien à voir avec, et dans ce cas devrait quand même condamner de telles actions, parce que s'il y a des problèmes de loi et d'ordre, il faut que ça soit mené par l'armée malienne et pas par des milices qui sont éventuellement pro-gouvernementales. Et là, on sent une ambiguïté qui, évidemment, ressurgit sur l'ensemble du processus. Est-ce que, finalement, les accords d'Alger, qui sont évidemment très loin d'être parfaits, mais qui sont malgré tout des accords, est-ce que, finalement, on n'est pas en train de défaire petit à petit ces accords par toute une série d'actions armées dont on comprend très bien la logique économique, mais qui finalement vont tuer l'idée d'une réconciliation.
Mais l'armée malienne dans tout ça?
C'est tout l'objet de la critique du coup d'État et également de la campagne électorale du président Ibeka, hein, de dire qu'on allait refonder une armée malienne, qu'elle allait être l'instrument par excellence de la souveraineté. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est que ce qui se passe est notoirement différent. Et encore une fois, et on l'entend beaucoup ici à Bamako, il y a des calculs politiques qui n'honorent pas les décideurs qui les font, mais qui, d'une certaine façon, sapent plus l'armée malienne, cette nouvelle armée malienne qu'on essaie de reconstituer, que des défaites militaires vis-à-vis de groupes Touareg ou de groupes djihadistes.
Est-ce qu'il n'y a pas un constat d'échec en sachant que les djihadistes opèrent maintenant près de la frontière ivoirienne ou Sévaré, par exemple?
Personne n'a voulu tirer les leçons de ce qui s'était passé pendant les mois de contrôle par les groupes djihadistes ou islamistes armés du Nord Mali. Et donc on a essayé de revenir au statu quo ante, en sachant que celui-ci, d'une certaine façon, ne répondait plus du tout aux populations, aux désirs des populations. Donc une énorme frustration populaire.
Roland Marchal, joint à Bamako.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
En Mauritanie, ouverture aujourd'hui du procès en appel de trois militants anti-esclavagistes, dont Biram Moud Abeid, président de l'IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste. Arrêtés en novembre 2014, les trois militants ont été jugés et condamnés en janvier à 2 ans de prison ferme pour notamment appartenance à une organisation non reconnue. Leurs avocats ont décidé de boycotter ce procès. Claire Morin-Gibourg a joint l'un des avocats des activistes, Brahim Ebeti.
Le boycott, c'est suite au dessaisissement Mani Militari et un catimini des juridictions ordinaires, le jour même du prononcé de jugement de Rousseau, et la tentative de régularisation postérieure quelques mois après. Deuxième point, la décision de nos clients de ne comparaître qu'à devant leur juge naturel. C'est en fonction de ces deux paramètres que les avocats de la défense ont décidé de se conformer à la décision de leurs clients.
Pourquoi attend-on le verdict du procès en appel ?
Écoutez, je n'ai aucune idée, pour la simple raison que c'est une audience qui se tient en catimini, dans des conditions particulièrement suspectes, et je ne saurais prédire ni de la date, ni de ce qui se passera, parce que c'est convenu d'avance.
Cela vous étonne-t-il que la Mauritanie s'est dotée il y a quelques jours d'une nouvelle loi anti-esclavagiste ?
Je vois un double discours hypocrite. D'une part, on décrète l'esclavage crime contre l'humanité, on adopte une loi pour définir les différentes formes d'esclavage et pour aggraver la sanction, et on persécute, on arrête, on condamne les défenseurs des droits de l'homme pour l'éradication définitive de l'esclavage dans notre pays. Je vois vraiment que c'est un discours contradictoire qui ne répond pas à une objectivité, à une volonté réelle d'éradiquer ce phénomène particulièrement grave qui sévit encore dans notre pays.
Est-ce que, malgré tout, la Mauritanie a fait quelques progrès dans le secteur de l'anti-esclavagisme depuis quelques années ?
Moi, je suis très inquiet. Tant qu'il y a ce double discours, tant qu'il y a la persécution des militants anti-esclavagistes, je pense qu'il n'y a pas d'évolution. Parce que les textes ne permettent pas d'éradiquer l'esclavage. Il faut d'une part une volonté. Deux, il faut soutenir et protéger tout ce qui s'active contre l'esclavage et adopter une réelle politique économique et sociale. Les textes ne suffisent pas pour éradiquer un phénomène aussi grave et aussi enraciné.
Brahim Ebeti, membre du collectif de défense de Biram Oud Abeid, des défenseurs des droits de l'homme.
Amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
C'est la fin de ce journal à la mise en onde ce soir, ici à Kaba. Présentation Morgane Guiriec et Eric Manirakiza.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone.
N'Djamena sur 93.1 FM. Clédou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.